Et voilà, de retour sur les ondes de Canal Sud, 92.2 MHz de la bande FM. Et avec nous dans les studios, H et V, qui sont ici pour nous parler de la danse macabre qui aura lieu ce vendredi, le 31 mars, à l'Euphorie, de 10h30 à midi. À midi, pourquoi je dis toujours midi, c'est fou ça, parce que je veux me barrer moi à midi sûrement. De 10h30 à 20h.
Ça commence à 10h. C'est 10h-20h. C'est 10h et 10h d'espace de discussion et de réflexion sur la mort et le deuil.
Et le deuil, oui. Et donc là, on vient d'entendre un groupe trop bien. J'avais oublié que c'était aussi bien quand même.
Bien sûr.
Ouais, c'est fou. À l'époque, je trouvais ça moins bien. C'est bizarre. C'est tiré du 45, ça ou...
Du dernier EP ouais, qu'ils ont fait, ouais.
Avec le zine.
Ouais, qui était, c'était quoi c'est plus que des
plus mots. Plus que des mots, hein, c'est ça, ouais. Exact. Avec du café, pour avoir assisté à la coloration de la pochette blanche où tu mets le vinyle.
Si,
avait
si.
Été coloré... si. Qui avait été coloré avec du café. Donc la mort aborde une multitude de thématiques très vastes et je vous en proposais plusieurs en mode ça va vous faire bugger et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence nuit bleue, toi-même tu sais. Bon. Alors par exemple, parmi les 10 commandements, arrive en 5e position par ordre d'importance le fameux
« Tu ne dois pas tuer ».
Exactement, tu ne tueras point. Alors déjà, est-ce que vous auriez proposé cette idée pendant le brainstorming de la Startup Nation?
Je sais pas. Ouais, je pense que c'est forcément. Enfin, ça doit s'accompagner de conditions. Je pense que en fait, une idée de faire souffrir les autres juste pour les faire souffrir, je pense que. Moi, je crois que c'est un truc qui me va bien de me dire que je peux essayer de ne pas faire souffrir les gens qui m'entourent. Après, ne pas tuer, je pense que si je dois me défendre, à un moment, il faudra que je tue. Si en face de moi, il y a quelqu'un qui veut me tuer.
Pour l'avoir relu dans les petits astérix, c'est possible.
Ah,
ouais,
okay.
Non, vraiment, hein, si tu dois te défendre ou défendre même la cité, je crois, c'est possible. Et d'ailleurs, je me disais, j'ai réalisé qu'on n'aurait pas pu mettre « tu ne mourras point » comme commandement.
Ça paraît plus compliqué.
Mais ouais, parce que sinon, il aurait fallu retirer le 5e commandement, forcément. Parce qu'on ne peut pas ne pas tuer si on ne peut pas mourir, forcément. Et,
oui.
Et puis, en plus, le livre était déjà parti à l'imprimerie. Et puis, ce n'était pas possible de rappeler les 2,5 à 6 milliards d'exemplaires. Pour rectifier l'erreur, tu comprends bien.
Mais tu parles de quel livre?
Bah, la Bible.
Ah, ok. Oui. Parce que moi, je pensais aux tablettes à la base, quoi.
Ah, au tout début, les fameuses tablettes.
Tout début. Et du coup, j'étais à... Mais quel Astérix? Genre, il aurait fallu
regraver, ça aurait été super compliqué, quoi. Alors, deuxième question, puis vous en êtes brillamment sorti. Le quotient intellectuel de Monique Olivier a été évalué à 131, comme 2,5% de la population française. Alors, vous savez qui est Monique Olivier?
Pas du tout.
Vous ne connaissez pas Monique Olivier?
Pas du tout.
C'est l'ex-femme de Michel Fourniret.
Ah.
C'est-à-dire, elle a un QI complètement démentiel. Il y a un rapport avec la mort. C'est-à-dire, elle est restée avec un tueur en série, devenant elle-même une tueuse en série, avec un QI de 131. Alors, c'est la jurisprudence nuit bleue, hein, mais...
Et du coup, quoi, ça devrait rendre ses actes moins horribles ou plus horribles parce qu'elle avait plus d'intelligence pour réfléchir mieux à ça?
En tout cas, elle était armée pour
mais le
comprendre et décrypter.
Le QI tel qu'il est mesuré, en fait, il n'explique pas grand-chose, au final. Et, il explique une capacité de raisonnement logique et tout un tas de trucs, mais qui sont, pareil, préformatés dans cette société, selon l'éducation actuelle. Et je pense que ça n'explique pas grand-chose, en fait, en termes de... Et ça, et ça enlève complètement des trucs d'intelligence émotionnelle aussi, et je pense que quand on vit avec un serial killer, un tueur en série, je pense que... Enfin, je peux pas imaginer en fait dans quel état ça te met. Et du coup, potentiellement, la seule porte de sortie que tu vois, c'est juste de te mettre à tuer toi aussi pour éviter de mourir. J'en sais rien en fait. On peut pas être dans sa tête. Ouais. En tout cas, c'est sûr que ça ne rend pas moins pire ou mieux ses actes. De toute manière, chacun peut réfléchir comme il veut par rapport à ça.
Ouais, je sais pas. Je pense qu'elle a essayé de comprendre, tu vois, peut-être, comprendre
Mais vraiment, les trucs de QI, en fait, n'expliquent... Enfin, c'est vraiment pas du tout une mesure de l'intelligence. Enfin, ça veut rien dire, je pense.
Ouais, tu parlais d'intelligence émotionnelle.
Ouais, c'est entre autres. Qui sont pas mesurés, justement, dans leur test de QI. Mais par contre, oui, si t'es très bon à l'école, que t'as une bonne capacité d'orthographe, de grammaire, de mathématiques, de raisonnement logique, de capacité de genre t'imaginer, enfin genre visualiser en fait les problèmes dans ta tête et réussir à les résoudre et tout, oui, on va te donner un QI plus important, une bonne capacité de mémoire aussi, mais en fait genre ces trucs là c'est pas, ça peut aider à avoir une intelligence émotionnelle évidemment, mais en fait enfin comment tu deals avec tes émotions, la plupart de ces trucs là en fait ils sont liés à la mémoire, mais ils sont pas forcément liés à des capacités de raisonnement. Enfin, tu peux être très très intelligent et très anxieux, très paranoïaque. Enfin, ça veut rien dire.
Ouais, ça isole aussi, en fait. Est-ce que vous pensez que les zombies, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, peuvent être des représentations politiques de la mort ? Est-ce qu'on peut les imaginer un petit peu comme des révolutionnaires insurrectionnels qui forment des black blocs, puisque c'est le thème du moment ?
Bah, ça serait super de faire un film de zombies de cet arbre-là, en tout cas, je pense. Mais en tout cas, oui, il y a cet imaginaire des zombies comme, je sais pas, s'en prenant à l'ordre tel qu'il est, et qui peut être très très plaisant. Enfin, ouais, on peut rapprocher un peu de trucs d'émeute, quoi. Enfin, en tout cas, c'est très plaisant à regarder les films de zombies pour ça.
Ouais, d'être ceux qui, même s'ils étaient censés mourir, ne meurent pas. Nous sommes toujours là.
Les idées continuent, quoi. Mm-hmm. Le 2 novembre, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la commémoration des défunts au Mexique. C'est la fête des morts. Donc, les Mexicains, Mexicaines vont dans les cimetières en jetant des pétales de fleurs et en allumant des bougies afin de guider les âmes vers les tombes. Il y a même une tradition au Pomuch. Qui veut que les habitants ouvrent les tombes quelques jours avant la fête des mortes pour nettoyer les ossements et changer les habits ou le linge entourant les squelettes du défunt pour qu'ils soient présentables le jour des morts. Je pensais qu'on pouvait aussi imaginer qu'est-ce que serait la fête des vivants pour les morts.
Ils feraient semblant de se gaver de gros festins absurdes. Je sais pas. Il se rappellerait des trucs qu'ils sont bien contents de ne plus faire, ouais. Potentiellement. Après, juste par rapport à ce que tu disais, par rapport au rituel au Mexique, dans certaines communautés du Mexique et tout, enfin, moi, ça me paraissait important de soulever aussi qu'en fait, on a l'impression que la mort a quelque chose de... Enfin, les funérailles sont censées être quelque chose qui est très solennel, très tout vêtu de noir, triste, visage caché, on pleure, etc. Mais en fait, il y a plein d'autres cultures où en fait, c'est la fête, déjà, et pas forcément des cultures très loin de l'Occident ou je sais pas quoi, mais rien qu'à la Nouvelle-Orléans, déjà, même si les gens ils sont habillés en noir, en fait, ils accompagnent. Il y a toute une procession... du lieu de la veillée jusqu'au cimetière, qui est accompagné par toute une fanfare. Et du coup, il y a de la musique, en fait, et les gens dansent en accompagnant le cercueil pour aller jusqu'au cimetière. Il y a d'autres cultures, par exemple aux Antilles, où, enfin, j'imagine que c'est le cas dans d'autres cultures aussi, mais où, en fait, les gens sont habillés de blanc, les cimetières sont tout en blanc, parce qu'il y a enfin, c'est pas tant un truc de noir parce que la faim et la mort, mais plus un blanc comme quelque chose de, enfin, je sais pas, truc de pureté ou j'en sais rien. Et ouais, et pareil, en fait, il y a des chants, il y a de la musique, on mange, on se parle, il y a des moments de transe même, et du coup, enfin voilà, genre, moi je trouve ça très très triste en fait, les rites funéraires. Et les habitudes, les us et les habitudes de, en Occident, notamment en France, enfin, genre, vraiment ce truc d'être très calme, d'être assez peu nombreux, d'être triste. Enfin, évidemment, on est triste quand une personne meurt, mais faire la fête aussi et à la fois mélanger, rire, pleurer, danser comme des fous et avoir l'impression qu'on n'a plus rien dans notre corps parce qu'en fait on est tellement triste qu'on n'a même plus la force de sentir notre propre corps. Je pense que c'est aussi en fait, des manières qu'on pourrait créer. En fait. Enfin, on a tendance à réutiliser ce truc de on s'habille de noir, on cache notre visage quand on pleure, on se parle peu, doucement, on ne fait pas la fête. Enfin, voilà. Et les jours qui suivent, etc., chacun est un peu isolé dans sa maison, à dealer avec sa propre tristesse, etc. Je pense qu'en fait, vu qu'il y a cette existence de ces rites-là, et ben, ça prend toute la place sur des possibles imaginaires. Enfin, je crois qu'un des trucs aussi qu'on aimerait bien qu'il se passe aussi lors de la journée mortelle, enfin, le 31, là, la danse macabre, c'est aussi ouais, pouvoir se permettre en fait, de penser à comment on voudrait que nos funérailles se passent, comment on aimerait que les gens fassent, ou est-ce que, comment nous, on aimerait fêter la mort de telle ou telle personne qui risque peut-être de mourir un jour ou bientôt. Enfin, comment idéalement, en fait, enfin, se permettre d'imaginer à un moment, je crois que... Voilà. Parce que je crois que la pire des morts, pour le coup, c'est celle où on est vivant et on s'empêche de penser et d'imaginer.
Mais je sais que, enfin, pour reprendre ce truc de comment c'était, enfin, comment ça peut être dans d'autres aires géographiques, en Europe, au Moyen-Âge, il y avait vraiment ce truc bon, qui était lié à la religion chrétienne, mais où il y avait vraiment les cimetières qui étaient autour de l'église et pas relégués au fin fond de... Parce qu'en fait, bon, c'est un truc d'urbanisme aussi, mais maintenant, les cimetières, ils sont... Enfin, et tout ce que ça veut dire aussi, que c'est relégué, en fait, en bordure de village, c'est caché, en fait. Et qu'il y avait ce truc de... Ben, en fait, il y avait l'église qui était au cœur du village avec le cimetière autour, et que je sais que j'avais lu pas mal de choses là-dessus sur ce truc de, bon, bah, tu vas à l'église, bon, un peu tout le temps, et en fait, après, tu vas aller bouffer ton sandwich, ou je sais pas ce qu'ils mangeaient à l'époque, sur la tombe de tes défunts, en fait. Et qu'il y a ce truc de, ben, en fait, tu fais des choses que tu fais entre vivants, mais tu le fais avec les morts, enfin, physiquement. Et du coup, pour reprendre ce que tu disais sur ça ressemble à quoi une fête de mort, enfin, moi j'imaginais vraiment ce truc-là sur des lieux physiques, en fait, où, qui vont être liés à certains morts, que ça soit une tombe ou, je sais pas, une urne ou un endroit qu'on pense qui est habité un peu par ce défunt-là, en fait, de juste faire un peu avec cette personne qui est là, à cet endroit-là. C'est des choses qui se créent, quoi.
Il y a les trucs d'hôtel aussi, enfin, moi, ce que tu disais là, d'avoir des choses que tu fais de la vie quotidienne avec des vivants, mais qui est aussi la présence de symboles des morts ou d'existence des morts qui soient pas loin et tout. Enfin, il y a aussi pas mal de cultures qui, ou de personnes et de familles qui ont ce truc d'avoir un hôtel, enfin, ou en tout cas un coin dans la maison ou dans le jardin où en fait il y a des objets, une collection d'objets, une collection de photos de la personne, avec cette proximité, en fait, de se dire, en fait, si j'ai envie de parler à cette personne défunte, et ben en fait je peux le faire. Il y a enfin voilà ce symbole de la personne qui est proche, quoi, ou des personnes aussi, enfin ça peut être des hôtels qui sont pluriels.
Mais j'avais vécu ça une fois, ça m'avait un peu choquée de un moment, bah justement pendant la fête des morts, j'avais des amis à la maison qui venaient du Mexique, et en fait on avait fait une sorte d'hôtel, on avait pris plein de cours, chaque cours j'avais le nom d'une personne défunte, on avait fait des... Bon voilà, enfin c'était très très joli, on avait passé un moment, on avait cuisiné des trucs pour les personnes décédées qu'ils aimaient bien et tout ça. Et c'était très beau, moi ça m'a fait beaucoup de bien, c'était un an pile poil après le décès d'une de mes meilleures amies. Et en fait, bon, j'étais super contente, et le lendemain matin je me réveille et le truc il avait disparu. Et la bouffe, elle était à la poubelle, et parce qu'en fait, c'était le truc de, bah voilà, c'est la fête des morts et c'est éphémère, et en fait, c'est quelque chose de très symbolique. Alors que moi, pour moi, j'étais très contente de cet objet, de cet hôtel, et qu'il y ait des choses tangibles pour rappeler tous ces défunts, et j'avais un peu envie que ça soit là. Mais en même temps, c'était très bien que ça soit éphémère aussi, quoi.
Tu parlais du cimetière, c'est vrai que c'est le lieu de repos des morts, et c'est considéré comme une terre sacrée. Et ça me fait penser au cimetière comme hétérotopie, qui est le concept forgé par Foucault, Michel Foucault. Il définit les hétérotopies comme une localisation physique de l'utopie. Ce sont des espaces concrets qui hébergent l'imaginaire. Ils sont utilisés aussi pour la mise à l'écart, comme le sont les maisons de retraite ou les asiles. Et ce sont des lieux à l'intérieur d'une société qui obéissent à des règles qui sont autres. Un peu comme les squats, par exemple. C'est une belle définition, une belle vision aussi des cimetières, qui ont leurs propres règles, leurs propres usages, en fait. C'est ce que vous dites aussi, qu'il faut continuer à les inventer, ces règles et ces usages. Il faut dépasser nos imaginaires, peut-être trop eurocentrés.
Après, les cimetières, c'est aussi des lieux qui échappent pas, justement, à tous des trucs d'urbanisation et de spéculation et de tout ce qui nous traverse dans le monde des vivants. Enfin, si on retourne vers des choses vraiment très concrètes, financières. Je suis pas hyper à l'aise sur ce sujet, mais je sais que, par exemple, j'ai lu pas mal de trucs sur... Par exemple, à Marseille, il y a de plus en plus des cimetières, comme ils se font sur le continent américain, de cimetières en hauteur. Parce que ça gagne beaucoup de place, et voilà, c'est qui les personnes qui vont se retrouver dans ces hôtels mortuaires, c'est les plus pauvres, avec des concessions aussi beaucoup plus courtes, les morts qui vont être déplacés, et que voilà, en fait, les cimetières, c'est pas des lieux à part, ça échappe pas au modèle social, quoi, on va dire.
Au contraire, ouais, c'est on est la représentation la plus marquante. Ouais. Enfin, tu vois, genre, les caveaux qui sont là depuis des centaines d'années, et tu dis, ok, ça, c'est genre une famille qui, genre, a mis en place plusieurs caveaux avec, je sais pas combien ça coûte, mais en vrai, c'est hyper cher, hein, nous, quand on a dû, payer pour la stèle et la pierre tombale du daron. La totalité du truc, ça nous a coûté plus de 5000 euros. La location de la pompe de la chambre funéraire, la préparation du corps, le cercueil, la cérémonie, l'enterrement, et puis ensuite la stèle en marbre, etc., etc. Enfin, genre vraiment, ouais, ça nous a coûté 5000 euros, et pourtant on a pris genre parmi les trucs les moins chers. Et du coup, tu te dis, en fait, genre un caveau qui fait... 4 fois la taille d'une pierre classique, d'une pierre individuelle, et qui est là depuis des générations et des générations, forcément, en fait, genre, tu vois ça. La plupart du temps, ils sont plutôt genre vers le centre ou vers les endroits les plus beaux, en fait, des cimetières. Et après, genre, les endroits les plus périphériques, en fait, ça va être les endroits où, en fait, t'as les gens les plus pauvres et les morts les plus récentes. Et du coup, dans des endroits où, en fait, genre, même la biodiversité, en fait, elle est pas très belle ni rien. Sans compter, genre, tous les endroits, les endroits où il y a les espèces de petites étagères, là, pour les urnes. Ou pareil, quand t'es incinéré, t'es mis dans une urne, et les gens, ta famille n'a pas le droit, enfin tes proches n'ont pas le droit de garder les cendres. Ça c'est pareil, je trouve ça un peu ouf de pas... T'es obligé de, pareil, louer un espace dans cette espèce d'étagère au cimetière, avec une petite en-tête, c'est une petite boîte, je sais pas combien ça fait de centimètres de mesure, etc. Mais en fait, pareil, c'est... Enfin voilà, et du coup, t'as ceux qui ont à peine la thune pour louer le truc et mettre une petite pancarte en bois ou en plastoc, j'en sais rien. Et t'as ceux qui ont la thune pour en faire tout un truc merveilleux, mettre le petit truc en marbre qui permet de poser les plantes, etc. Venir, parce que pareil, genre les bouquets, ça coûte méga cher aussi. Genre, voilà. J'étais censée faire une toute petite parenthèse.
Bon. Après, il y a aussi, je pense, pas mal de choses qui se passent qui permettent de... Enfin, en tout cas, il y a des collectifs qui permettent à des gens qui vont pas avoir de thunes d'avoir une mort ou un enterrement plus digne. Il y a plein de personnes aussi qui vont aller contourner la loi pour garder les urnes, toujours, pour faire qu'il y ait une cérémonie qui soit plus chouette et qui ne rentre pas dans le cadre de choses qui vont coûter beaucoup d'argent. J'ai entendu aussi que maintenant, il y avait même des... Enfin, bon, après, voilà, ça reste dans des trucs de business, mais en même temps, bah, c'en est un. Des scopes qui se montent dans le milieu funéraire aussi, qui essayent d'avoir un rapport beaucoup plus sympa avec les personnes qui viennent, de les accompagner de A à Z, de faire qu'ils soient plus autonomes, que les gens ils soient plus autonomes, que ça soit pas, qu'ils soient pas complètement dépossédés de la mort de leurs proches, dans tout ce qui est administratif et compagnie, quoi, et financier. Enfin, y a des choses, quoi.
Slutar du aldrig att fråga?
Nej. Jag slutar aldrig.
Och till sitter herran, han är ganska fjärran. Men din broder Satan, möter du på gatan.
Vad har du gjort av min fru?
Sommaren är förstås bättre än vintern. För på sommaren slipper man frysa. Men våren är det allra bästa.
Nu blir det där blåtuvans fiskgeneral! Akta dig så inte lägger det på käften. Så att du inte ens kan göra dina konster för turkar och kannibaler.
Dans Le Septième Sceau, le film de Bergman, y a un homme qui joue aux échecs avec la mort. Et tant qu'il ne perd pas, en fait, il ne meurt pas. C'est voilà. un moment culte du film. Et je voulais savoir, d'après vous, puisque vous jouez aux échecs, quel coup vous feriez pour vaincre la mort ? Alors, soit alors il y a le mat du lion, ou alors il y a le fameux coup, le baiser de la mort, pour vaincre la mort aux échecs.
Toi, tu joues aux échecs ?
Moi, je suis vraiment nulle aux échecs. J'essaye d'apprendre, mais je pense que la mort, elle me latte, quoi.
Moi, je connais pas les règles. Genre, ce que je connais de l'échec, en fait, se résume à des films dans lesquels on voit des jeux d'échecs et la série Le jeu de la dame.
Conseil série à propos des échecs.
Bah voilà, celle-là. S'il te plaît. Le jeu de la dame où on suit une meuf qui genre gravit les échelons, enfin et devient une très très forte joueuse aux échecs et gagne tous les plus forts de toute la terre. Et voilà, une histoire qui est inspirée de faits réels.
Sûrement.
Ouais. Hein.
Très bonne série.
Et ouais, c'est super bien fait.
Mais il gagne à la fin contre la mort ou pas ?
Non. Ah. La mort triche, pas sympa. Okay. Pas belle joueuse. Sûr.
Je t'aurais montré le soir, quand le ciel est vert encore, quand le sol est déjà noir, dommage que tu sois mort. J'aurais bien su te parler de moi et de mon cher corps, de la chaleur des rochers. Comment peut-on être mort? Je t'aurais bien invité à venir perdre le nord, mais pas pour l'éternité. Dommage que tu sois mort. Je t'aurais bien invité. Comment peut-on être mort? À venir prendre le thé, dommage que tu sois mort. Je confesse mon penchant, un grand faible pour les forts. Comment peut-on être
Merci Brigitte, en tout cas, fidèle auditrice. On fait un petit blind test maintenant, la mort dans la culture pop. D'ailleurs, après, tu pourras nous donner quelques références. C'est des citations, par exemple, ou des épitaphes, et il faut juste retrouver de qui c'est, en fait. C'est super simple.
Wow. Ok. Tu vas voir.
Et je vous donne même, il n'y a pas de buzzer, et je vous donne même en plus de qui ça peut être. Alors, dans la catégorie citation, qui a dit « La vie inspire plus d'effroi que la mort, c'est elle qui est le plus grand inconnu. » Alors, c'était peut-être mieux dit. Je répète, la vie inspire plus d'effroi que la mort, c'est elle qui est le plus grand inconnu. Alors, soit c'est Cioran, soit c'est Céline Dion, soit c'est Michel Farinet, qui est un ami chanteur, auteur, compositeur et altermondialiste, né le 11 novembre 1937. C'est un artiste picard underground.
Moi, je dirais, vu les détails que tu as donnés à cette troisième personne, je dirais que c'est cette troisième personne dont je ne me rappelle plus le nom.
Michel Farinet.
Voilà, je pense que la citation vient de lui.
Tu confirmes pour toi?
Oui, c'est sûr.
C'est Michel. Eh bien non, perdu, c'était Cioran.
Ah merde. Voilà.
Cioran, si tu nous écoutes. La vie inspire plus d'effroi que la mort, c'est elle qui est le grand inconnu. Ensuite, catégorie épitaphe. Sur quelle tombe il y a écrit « Nous portons un nouveau monde dans nos cœurs
wow. »
Soit c'est Durruti, soit c'est Dalida, soit c'est Michel Farinet.
Je pense Durruti.
Ouais. Peut-être que c'était pas écrit en français, du coup.
Ouais, ah. Moi, je l'ai traduit, ouais.
Ah oui. Après,
pour que ce soit... Tu vois, à chaque fois... Pourtant, il y a des pistes, quand même, tu vois. Mais c'est vrai, j'aurais dû le dire en espagnol. C'est en espagnol, c'est la tombe, elle est à Barcelone, au cimetière Montjuïc. Nous portons un nouveau monde dans nos cœurs.
C'est beau. Mmh.
C'est Durruti, bien sûr. Mmh. C'est pas Dalida. Dans la catégorie chanson, qui a écrit ce couplet? Et on a noyé dans des litres d'essence le souvenir borne de l'innocence en équilibre sur un fil de feu comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus. C'est ni le pied ni la gloire quand tu crames, c'est même pas une réponse à la hauteur du crâne. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui nous reste quand le quartier fait mon cœur la peste. Vas-y mon cœur ne flanchez pas, mon père, ma mère ne pleurez pas. Mais si on se jette dehors avec le diable au corps, ce corps refuse de vivre sans honorer notre mort. Rapport avec le mort.
Ah, mais c'est la mort.
Mais oui.
Qui ça étonne encore.
Ouais, bien sûr. Donc soit c'est Amé de la Rumeur, soit c'est Hugo Frey dans O Santiano, soit c'est Hugolin dans C'est le papé Manon. Bon, j'ai trop honte pour vous le faire en fait ça. C'est donc, quand je l'imaginais, j'ai osé le faire, mais là je le ferai pas. Ou alors c'est Michel Farinet, bien sûr.
On va partir sur la rumeur, hein.
Ben ouais.
Bah oui.
Bah alors en fait, il y a un piège, parce que ça aurait pu être Michel Farinet, parce que Michel Farinet, comme je vous l'ai dit, c'est un auteur, compositeur et altermondialiste, et qui parle beaucoup de la peste. D'ailleurs, pour conclure cette émission, on écoutera sa célèbre chanson sur Bruegel l'Ancien.
Ah ouais.
Puisque vous nous l'avez réclamé, c'est tout à fait raccord.
On n'a pas du tout réclamé ça.
Non, c'est vrai. Mais vous arrivez.
Ne nous fais pas avoir des goûts étranges comme ça. Ça va
pas. Mais tu vas voir, à mon avis, il a inventé un peu le post-punk, Michel.
Farine. Peut-être. Moi, je ne le connais pas. J'ai une réputation à maintenir d'être une personne qui a quand même des goûts musicaux de très bonne qualité.
J'avoue.
Et du coup, autoproclamé, évidemment. Ouais. Donc,
j'avoue.
Je refuse que tu dises à tous les écouteurs Michel de Canal Sud que j'aurais conseillé ce titre-là.
Attends, est-ce que tu aurais pu conseiller ça?
Non.
Deux secondes, attends. Il n'a pas commencé à parler de Bruegel l'Ancien. Bruegel l'Ancien, donc c'était un peintre, on va faire un peu de culture, qui a peint Le Triomphe de la Mort en 1562.
Une, deux, trois peintures passion, une, deux, trois chansons passion, c'est à
Angers
qu'il est né, ses tableaux sont au musée, son nom est Bruegel l'Ancien,
wow.
Son travail, l'esprit, la main, un artiste vraiment hors pair, de son temps un reporter,
tous ensemble.
Serions-nous vraiment tous plus civils?
Lisez.
Maintenant mieux que dans les siècles passés.
Bon, je vous laisse la surprise du refrain pour tout. Merci. À l'heure. Oui, et donc, parce que le triomphe de la mort, un tableau, c'est une allégorie mettant en scène les diverses formes relatives à la mort. Il y a quand même un lien. Le crime, les maladies, comme la peste, combat, suicide, tout ça. Donc, je pense qu'on a joliment rendu hommage à la mort et à la culture. Tu voulais peut-être donner
d'autres références.
Ouais, des références.
Tout à fait. Un des trucs qu'on fera aussi, qu'il y aura dans ce macabre, c'est de rassembler un peu à la fois des livres, des références, des podcasts qui parlent de la mort aussi. Enfin, à force, on a fait un petit peu ce travail de rassembler un peu, d'aller chercher, d'aller fouiller et tout, les quelques références qui nous parlent et tout. Et du coup, moi, je peux vous en parler trois là aujourd'hui. Non, même plus, en fait. Déjà, il y a un petit livre de Philippe Ariès, qui était anthropologue, qui s'appelle « Essai sur l'histoire de la mort en Occident ». Du coup, il y a une deuxième partie. La première partie est intéressante, la deuxième partie est pas ouf, parce que c'est beaucoup genre des trucs d'études de texte ou d'œuvres, machin. Mais ouais, la première partie parle un petit peu, justement, de l'évolution, en fait, dans les mentalités. Du rapport à la mort et au deuil et tout, et du coup c'est assez intéressant. C'était un historien des mentalités, anthropologue. Voilà, ça c'était la première référence. La deuxième référence, c'est un petit livre vraiment chouette qu'une personne m'a offert pour mon anniversaire il y a quelques années, qui s'appelle « Le catalogue de la mort » de Bunpei Yorifuji. Et c'est un petit livre avec un peu de texte, mais beaucoup de dessins joliment faits, où c'est cet illustrateur en fait qui se pose la question de c'est quoi la mort. Et donc en se disant c'est quoi la mort, et ben il passe par des trucs de statistiques, de raison de mourir. Genre c'est quoi les statistiques des décès au Japon notamment, parce que lui il est japonais. Mais dans le corps, en fait, le nombre de décès par partie du corps humain par an, ou encore, les morts, l'image de la mort, et du coup, quelles sont les morts qui sont un peu classes, etc. Enfin, bref.
Les morts genre, un peu classes.
Ouais, voilà, trop genre des trucs, enfin voilà, des récits comme ça, un peu intéressants. Il y a plein de petits, dessins sur les différentes représentations de la mort. Est-ce que c'est passer une porte vers un autre monde? Est-ce que c'est aller dans le monde souterrain? Est-ce que c'est aller dans le même monde mais parallèle? Est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est bref, il y a voilà. Lors de la journée, j'aurais peut-être photographié quelques petits bouts de ce truc-là. Et après, il y a des brochures aussi qui parlent du sujet. Notamment un texte d'une personne qui faisait partie du collectif Os Cangaceros, qui était un groupe de militants délinquants en lutte contre ce vieux monde tout pourri dans les années 80. Parmi elles, donc il y avait une personne qui s'appelait Andrea qui a été atteinte d'un cancer et qui a décidé au bout de plusieurs chimiothérapies d'arrêter le traitement et de décider du moment de sa mort. Et du coup cette brochure en fait c'est une compilation de plusieurs lettres à ses amis, à ses infirmiers, etc. où elle parle de son rapport à la mort et de sa décision en fait de choisir sa mort plutôt que de perdre sa vie. Voilà. Après, il y a un autre petit texte qui parle de panda, de technologie et de fin du monde, qui s'appelle « Laisse-moi mourir » et qui parle notamment du rapport à l'immortalité, du rapport à la sécurité aussi, et comment, en fait, on veut tellement se sentir en sécurité au point de détruire la mort et de repousser les limites de la mort, qu'en fait on en perd une partie de la qualité de la vie, etc. Enfin bon, c'est assez chouette, c'est des petites phrases comme ça, là, un peu belles, et ça dit aussi qu'il faut que se battre pour la liberté et tout. Et ensuite, ça sera ma dernière référence, c'est le guide de navigation en eau trouble, qui parle pas directement de la mort, mais en fait c'est plutôt un petit guide qui permet de se fabriquer des ressources pour surmonter en fait des moments où on va pas bien. Et bah, vu que quand des proches décèdent, c'est souvent des moments où on va pas bien, avoir rempli ce petit guide-là avant d'arriver à des moments comme ça, en fait, ça permet d'avoir des personnes, de donner des outils aux personnes proches pour qu'elles puissent nous soutenir à des moments où, en fait, on a du mal à exprimer ce dont on a besoin, etc. Et voilà.
Les brochures seront consultables vendredi, ouais. L'euphorie.
Après, il y a plein de choses, mais je pense que on n'a pas encore trop fait ça, mais on va faire ça cet après-midi, de glaner un peu plein de choses à droite, à gauche. On a regardé pas mal aussi au niveau des sons, des podcasts. On peut peut-être conseiller une émission qui s'appelle Radio Rageuse, qui est vraiment très très bien, où elles ont fait plusieurs émissions sur le thème du deuil et de la mort. Après, il y a France Culture qui fait beaucoup de choses. Enfin, il y a par exemple pas mal de pieds sur terre sur le rapport au suicide, sur des récits de personnes qui ont accompagné des personnes en fin de vie, tout ça. Moi, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une série de podcasts qui s'appelle « Quelques raisons de ne pas disparaître » sur la dépression. Et il y a un épisode qui parle justement de... du suicide et de des conseils en fait pour personnes proches de personnes qui sont suicidées, mais qui parlent du suicide d'une manière très éloignée de clichés, de tabous. Enfin, je trouvais que c'était très très juste, quoi. Après, on peut parler, c'est assez important dans ce qui est sorti assez récemment. Il y a Jeff Clack qui a fait son dernier numéro qui est sorti en avril dernier, qui s'appelle Feu Follet, sur le rapport entre les vivants et les morts, surtout. Et il y a un CD aussi, je pense qu'on va essayer d'en passer des petits bouts vendredi du CD, peut-être ça pourrait être l'occasion de faire des discussions à partir de ça. Donc ça parle autant de... Enfin, je sais pas, il y a des... Vous pouvez le trouver facilement, mais il y a autant des écrits un peu littéraires sur des personnes et leur rapport au deuil, à leurs amis décédés, aux rites aussi, comment trouver ses propres rites face à la mort, que des textes beaucoup plus politiques, quoi, les morts, la place des morts, est-ce qu'il y a des hiérarchies entre les morts, des textes sur le Covid, sur le Brésil, sur Bolsonaro, sur la place des archives aussi, en fait, dans les mouvements politiques, où il y a des morts. Bon, voilà, c'est très très riche.
Et donc, toutes ces références, c'est pour l'organisation, la conception de cette fameuse journée du 31 mars à l'Euphorie. Il se dessine déjà tout un programme qu'on peut consulter. Il y a des flyers qui circulent.
Il y a l'info sur IATA aussi, je pense.
Ok.
IAATA.info. Et du coup, on peut revenir un petit peu plus en détail sur le programme de la journée avec des horaires et tout. Du coup, à 10h, on vous accueille avec du thé, du café, du jus, ce que vous voudrez bien amener si vous avez envie de ramener des trucs à partager. À 10h30, on propose la projection d'un court-métrage qui s'appelle Zigzag, suivi d'une discussion. Je ne me rappelle pas s'il est disponible sur Internet, ce court-métrage.
Ça, c'est sur Vimeo, je crois.
Yes.
Ouais.
Et donc, il est visionnable, même si vous ne pouvez pas venir à 10h30 pour la proge.
Ça parle de quoi ?
C'est très artisanal. Je pense que c'est des personnes qui habitent dans un collectif dans l'Ouest, je crois, qui partent en stop pour... faire un petit quelque chose ensemble sur un ou une amie ALE qui est mort. On ne sait pas trop expliquer si c'est un suicide, si c'est un accident, mais en tout cas, c'est sur leur rapport à un ami défunt.
Okay.
Voilà, c'est très joli.
Après, à midi et demi, on mange. Pareil, si vous avez envie de ramener des trucs à grignoter, à partager et tout, c'est complètement possible. À 14h, on écoutera des bouts de podcasts... notamment des bouts du CD de Jeff Clack et des bouts d'une émission sur France Culture qui s'appelle Drôle de deuil. Et on discutera ensemble. Enfin, les podcasts, ils servent plus pour impulser la discussion et commencer à parler ou reprendre sur des sujets quand on a un petit peu épuisé un sujet. Tout le long de la journée, après, de 16h à 18h30, il y a la création d'un podcast. Faudra s'inscrire sur place avant. C'est possible de ramener son matos de son s'il y a. Et ça sera ensuite suivi de l'écoute collective de ce podcast à la fin de la journée. Et tout le long de la journée, il y a l'idée qu'il y ait plusieurs tables avec des petites questions, des petits sujets d'écriture, des petits bouts de trucs à découper, du matos pour faire des dessins et tout, pour créer une brochure collective sur le sujet. Il y aura un infokiosque et un coin lecture avec des bouquins qu'on prête et tout. Et un coin écoute aussi, où on aura mis une sélection de podcasts et où les gens pourront écouter seuls ou à plusieurs des podcasts tout le long de la journée. Et il y aura aussi un espace sans interaction pour s'il y a des moments où ce qui est soulevé est un peu trop intense et on a besoin de se retrouver dans un espace où il n'y a personne, ou même s'il y a pas. Enfin, dans un endroit où en fait on n'a pas envie de parler.
C'est bien d'y avoir pensé parce qu'effectivement ça peut aussi. Soulever beaucoup d'émotions.
Mais dans l'idée, en fait, on voulait mettre des balises dans la journée, donc avec des horaires pour, notamment le court-métrage, l'écoute de podcast, mais l'idée de la journée, c'était surtout que les personnes puissent faire un peu leur propre parcours. Enfin, en fait, s'il y a des gens qui veulent passer une demi-heure, une heure, c'est aussi un moment, en fait, qu'on voulait dédier à ça, où les gens peuvent discuter entre elles, participer, en fait, à n'importe quelle heure de la journée, à écrire un truc, écouter un truc, parler en petits groupes par rapport à certains sujets. On va essayer de faire en sorte que les gens ils puissent être aussi autonomes dans leur journée, mais tout en ayant un peu des balises sur certains questionnements, mais que ça puisse se faire seul, en groupe, en fonction des besoins des gens aussi, parce que c'est pas forcément simple, quoi.
Vrai que le lieu est grand, il permet ça, en fait, de créer des espaces séparés, intimes. C'est bien d'avoir ce lieu qui s'y prête complètement.
Et bon. Après, on n'est pas non plus ultra, ultra, ultra préparé. Et puis les gens viennent avec ce qu'ils ont envie aussi d'amener. Et s'il y a des propositions, c'est hyper chouette. Par rapport à la brochure aussi, s'il y a des personnes qui veulent... On s'était dit qu'on aimerait bien créer une brochure collective... En fait, qui serait terminé à la fin de la journée avec ce que les gens ont envie d'y mettre dedans. Du coup, s'il y a la volonté de ramener des photos, des bouts de texte, des choses. Et aussi du matériel créatif, quoi, des stylos, des ciseaux, du papier. Vous êtes les bienvenus, quoi.
Donc, c'est à l'Euphorie, au 36 rue du Canon d'Arcole. C'est bien ce vendredi 31 mars, de 10h à 20h. Grosse journée.
Dans les choses aussi que potentiellement qui peuvent se faire toute la journée aussi, c'est de préparer, soit de contribuer à la playlist là qui a été créée pour l'occasion et qui s'appelle Danse Macabre, qui est trouvable sur YouTube dès que je la mettrai publique, préparer sa propre playlist. On l'a déjà dit ça, mais. Je le redis, créer sa propre playlist de funérailles. Voilà.
Trop bien. Moi, j'avais ça de proposer.
Dans le sens du bien, avons-nous progressé ? Pour le moins, il est certain qu'on peut douter.
C'est pour que les gens partent. Ça, c'est la stratégie. C'est la stratégie des boîtes de nuit. Michel, si tu nous écoutes, respect, maximum respect. Petite dernière question, comment vous imaginez vos propres funérailles, justement ?
Moi, j'aimerais bien que les gens se sentent à l'aise de faire la fête et de mettre de la musique très fort, parce que je crois que la constante vraiment qui suit ma vie et qui me permet d'aller mieux et qui accompagne un petit peu tous les rituels, tous les moments de ma vie, c'est vraiment la musique. Du coup, je pense que les personnes se sentent à l'aise de danser et d'écouter de la musique à fond. Je trouverais ça merveilleux si les gens ont envie d'aller tout péter, tout brûler, et vraiment se décharger d'émotions aussi par de la colère et de la rage, et que ça puisse se montrer via des trucs qui s'explosent et tout. Je pense que c'est vraiment chouette. Mais aussi, que les gens prennent le temps d'être ensemble et de se faire du bien et de se dire qu'ils s'aiment. Je pense que ça sera triste, évidemment, mais j'ai pas envie que... Enfin, j'ai envie que toutes les personnes qui ont envie de célébrer ce moment-là, en fait, se sentent à l'aise de proposer différentes formes, en fait. Je pense que... Voilà, mais ouais. Genre, si ça pouvait être une espèce de, genre, bloc party sauvage dans la ville où je serais à ce moment-là, et qui résonne dans tout le quartier, dans toute la ville. Enfin, ouais.
Bah, je pense que t'as un peu dit ce que j'aurais dit. Ah, wow. Tant mieux. Du coup, je rejoins complètement. Je veux la même chose pour mes funérailles. Avec de la bonne bouffe aussi, en plus. Important. Il faut que les gens, ils mangent bien.
Moi, j'avoue que, genre, un des trucs qui me traversait un peu pendant qu'on discutait, et du coup, à un moment, je l'avais en tête, et puis après, ça m'est parti. Bref. C'est que, en fait, un des trucs que je me rends compte là, c'est que souvent, quand on parle de mort, en fait, on parle beaucoup de... finalement, toutes les choses qu'on va mettre en place et tout, elles sont pas tant pour les morts. Elles sont pour les vivants. Même pour les... Enfin... Sauf si on a tout un tas de trucs de mythes et de légendes et tout, vers un au-delà, etc. Enfin, même ces trucs-là, en fait, ils sont aussi parce que pour les personnes qui restent, c'est difficile de se dire que la personne disparaît vers le néant. Et que du coup... je pense que c'est pas mal de se rappeler qu'en fait, la mort, c'est... Quand on parle de la mort, etc., c'est aussi souvent, en fait, juste... pour les personnes qui restent et pas tant pour la personne qui s'en va. Et que du coup, reprendre aussi cette humilité-là et se dire, en fait, genre, quoi qu'il en soit, il faut aussi qu'on arrive à respecter ce que la personne qui est décédée aurait voulu, pas tant parce que c'est nous qui nous projetons ces désirs-là, mais plus parce que, en fait, c'est juste ce que la personne aurait voulu, et la moindre des choses, c'est de respecter ses dernières volontés. Enfin, voilà. Genre, je voulais juste rajouter cette note-là. Si on peut peut-être faire envoyer une grosse pensée aux personnes qui ont pris cher à Sainte-Soline, là, et notamment les deux personnes qui sont dans le coma, entre la vie et la mort, justement. Et on espère très très fort que ça va aller mieux, que les proches vont garder de la force et du courage, de la patience, etc., le plus possible. Et voilà, et que tout le monde réussira à aller un peu mieux, parce que vraiment c'était horrible comme moment, j'ai l'impression. Du coup, gardez la pêche, gardez du courage, on est encore là.
Ouais, prenez soin de vous, faites gaffe à vous, sbeul partout, et à bientôt.
Ouais.
Au revoir.
À plus tard.
Ciao.
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour?
Llevo semanas sin salir de mi casa. Tengo ganas de drogas, música y fiesta, y no volver a la cama. Baila, 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 baila conmigo. Baila, 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 baila conmigo.
Baila, 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 baila.